Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce radio-journal. Le fil de l'information en trois titres, l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur éducatif est considérable. Le calendrier scolaire est sérieusement affecté. Dans certaines zones où l'insécurité persiste, le risque et la probabilité de la déclaration d'une année blanche. Détail dans ce radio-journal. En temps de crise, les femmes enceintes développent de stress qui influe sur la production des hormones à la base des complications de grossesse. C'est ce que pense le gynécologue Jean-Yves Balungu. En cette période de crise sécuritaire, il appelle les femmes enceintes à consulter régulièrement leur médecin pour le suivi de la grossesse. En sport, les matchs allés de l'étape de quart des finales de la Ligue des champions de la CAF se jouent ce mardi 1er avril. Quatre matchs sont prévus, dont l'alléchant duel entre le champion en titre Al-Ahli du Caire en Égypte et Al-Hilal du Soudan, club entraîné par le Congolais Florent Ibengue. Voilà tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedicam.
Des travaux de déminage ont été lancés à l'aéroport international de Goma au nord Kivu, deux mois après sa fermeture suite au combat entre les forces armées de la RDC et l'armée de l'AFC M23. Ces travaux sont menés par l'AFC M23 et les contingents de la communauté des États de l'Afrique australe SADC. C'est le fruit de l'accord signé le vendredi 28 mars entre l'AFC M23 et la SADC. L'organisation sous-régionale s'est engagée à effectuer des travaux de manière à permettre également le retrait de ses troupes et matériels du chef-lieu du Nord Kivu. C'est dans plusieurs sources au niveau de l'aéroport citées par le média actualité.cd. Ce chantier de déminage a démarré sur le tarmac, la zone la plus urgente et la plus accessible pour assurer la sécurité des futures opérations aériennes. Cependant, d'autres mines demeurent dans les environs de l'aéroport en raison de l'intensité des affrontements qui ont marqué la ville. La situation demeure préoccupante malgré les avancées dans le déminage du tarmac. De nombreux engins non neutralisés restent présents aux alentours, menaçant la voie d'accès à la piste. Cette menace continue de rendre impraticable la circulation et l'accès aux installations aéroportuaires. Au sud Kivu, plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour du Conseil provincial de sécurité qui s'est tenu lundi 31 mars à Bukavu, en la résidence du gouverneur Manu Birato. C'est entre autres la sécurité dans la province et la spoliation du patrimoine immobilier de l'État. Concernant la sécurité, le Conseil a reçu un rapport selon lequel 19 bandits ont été neutralisés et 47 armes récupérées. Il existe encore des poches de résistance, notamment dans le parc national de Kahuzi-Biega-Penkabé, et des anciens prisonniers se cachent au milieu de la population, a fait savoir le Conseil de sécurité. Par ailleurs, pour traquer les malfaiteurs, il a été constaté que l'accès est difficile pour les services de sécurité à certains endroits à cause des constructions anarchiques. Ainsi, le Conseil a été informé de la volonté de l'armée d'éloigner l'ennemi de la zone libérée. Il a été rappelé l'interdiction de toute démolition et la construction des immeubles dans la ville de Bukavu jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, des commissions ad hoc seront mises sur pied pour étudier l'épineuse question des spoliations du patrimoine immobilier de l'État, confère les dossiers et la carte et les camps militaires de Panzi. Bien plus, au cours de ces conseils, il a été décidé d'entamer des pourparlers avec la société Bralima pour la reprise de ses activités. Il a été rappelé l'interdiction pour la population de se rendre justice et la réhabilitation prochaine de la prison centrale de Bukavu. Le compte rendu de cette réunion est signé par Crispin Cachalet, membre de ce conseil.
Et à Bukavu, des cas de justice populaire sont de plus en plus signalés. Des personnes sont brûlées vives, d'autres battues jusqu'à rendre l'âme. Pour la plupart des cas attrapés en cette période d'insécurité dans la ville de Bukavu, caractérisée par des attaques nocturnes. Ce phénomène devenu monnaie courante dans la ville et qui constitue une atteinte aux droits de l'homme est décrié par plusieurs acteurs sociaux et défenseurs des droits humains. Certains contactés par Radio Mandelo jugent inadmissible que ce phénomène prenne prennent de l'ampleur dans la ville de Bukavu à une vitesse inquiétante pour eux. L'inaction des autorités suite à cette situation risque d'amplifier encore plus ce phénomène pendant que des innocents en sont également victimes. L'un d'eux est président adjoint de la nouvelle dynamique de la société civile au sud, Kivu, Nicolas Lubala, appelle les autorités à sanctionner les auteurs de ces actes, mais surtout remettre de l'ordre principalement dans les secteurs de la sécurité pour en finir une fois pour toutes avec la justice populaire à Bukavu. Aux personnes qui commettent ces actes, Nicolas Lubala, président provincial de la NDC, appelle à la retenue et laisser la justice faire son travail car la vie humaine reste sacrée.
Il est inconcevable aujourd'hui qu'on puisse attraper un voleur, qu'on puisse les tuer, qu'on puisse aussi les brûler vifs, mais aussi, il y a des gens qui exagèrent en mangeant la chair humaine. Nous nous condamnons parce que vous savez que la vie humaine est sacrée. Toutefois, il y a des innocents aussi qui sont lynchés par la population alors qu'ils sont innocents. Lorsque nous-mêmes, nous nous rendons justice, quelquefois, il y a des places que nous nous perdons. On ne peut pas savoir il opérait avec, mais où se trouvent les armes, puis l'utiliser, tout ça. Je pense que nous, population, nous devons éviter la culture de la justice populaire qui a pris de l'ampleur au niveau de la ville de Bukavu.
Nicolas Lubala, président provincial de la NDC. Et la situation humanitaire devient de plus en plus intenable dans le groupement de Karongo-Nyangezi, ainsi que ses entités et villages voisins dans le territoire de Walungu Sud Kivu. Sur place, la situation est telle que des milliers d'agriculteurs ne peuvent plus se rendre aux champs. Les malades dans différentes structures de santé reçoivent difficilement les visites et même les soins. D'autres ont carrément fermé les portes, alors que les portes de l'école n'ont pas ouvert depuis plus d'un mois. Détail Hélène Boudjiriri.
Au sujet par exemple de l'accès aux champs, des témoins sur place rapportaient que la crise sécuritaire s'est accentuée pendant que certains habitants avaient déjà labouré leurs champs et plantant quelques semences, alors que d'autres s'apprêtaient à cet exercice pour cette saison culturelle B. À ces jours, expliquent des sources sur place, ceux qui avaient déjà planté ne peuvent plus accéder à leurs champs pour les suivis, notamment les sarclages, alors que d'autres ne peuvent plus rien cultiver. Cette situation est due à l'intensification ces dernières semaines des affrontements entre les éléments se réclamant Wazalendo et les éléments du M23. Il s'agit de plus de 7 villages concernés, entre autres Mulende, Lukananda, Nyamurambie, Kabiganda, Kamina, Tijingri, Tibimbi, Iraga et Ishuja, expliquent nos sources sur place. En plus de l'intensification des combats, l'autre cause reste la situation sécuritaire précaire, accentuée par les rumeurs persistantes faisant état des attaques imminentes des éléments Wazalendo sur les positions occupées par les M23. Sous anonymat, un habitant contacté indique que chaque matin et soir, au moins un coup de feu est attendu. Une situation qui effraie les habitants, les poussant à rester chez eux ou alors à prendre fuite vers des destinations plus ou moins sécurisée. Dans un contexte sécuritaire délétère, la saison culturelle B 2025 risque d'être ratée pour les habitants de cette partie du sud Kivu, ce qui pourrait provoquer une crise alimentaire et une famine généralisée dans les jours à venir. Les sources de l'administration dans cette partie du sud Kivu indiquent que Karongo Nyangezi s'est vidé d'au moins 80% de ses habitants qui se sont rendus pour la plupart à Panzi dans la ville de Bukavu et autres villages voisins. À ceci s'ajoute le fait que les hommes ont du mal à circuler dans tout Nyangezi de peur d'être confondus ou identifiés comme faisant partie des groupes négatifs par les parties au conflit dans cette partie du sud Kivu. Sur le plan sécuritaire, l'on rapporte la fermeture de plusieurs centres de santé à l'instar de celui de Munya qui est d'ailleurs pilote par rapport à d'autres comme celui de Mulende et Muzinzi également fermé à ces jours. Malgré la présence des malades, la situation sécuritaire n'a pas permis au personnel soignant de rester dans l'entité. À l'hôpital général, par contre, les malades font face à plusieurs difficultés. Certains ne peuvent plus recevoir les visites de leurs membres des familles car ayant fui l'entité, une situation qui fait qu'un malade accède difficilement à la nourriture. Même si on a de l'argent, nous a confié l'un d'entre eux, on ne peut pas avoir où s'approvisionner car les centres commerciaux et les marchés sont devenus presque fantômes. Sur le plan de l'éducation, des enseignants contactés indiquent que les écoles n'ont pas ouvert leurs leur porte depuis près d'un mois et demi dans cette entité située dans la sous-division Walungu 2. Cette situation suscite un questionnement sur l'essor des élèves si la situation ne s'améliorait dans les jours à venir, d'où l'appel aux belligérants et autres parties au conflit à travailler pour un retour effectif et rapide de la paix partout en RDC. Signalons que la sous-division de l'éducation Walungu 2 compte 107 écoles primaires, dont 96 publiques et 11 privées agréées, 58 écoles secondaires, dont 46 publiques et 12 privées agréées, ce qui fait un total de 177 écoles, explique nos sources.
Toujours à ce sujet, la crise sécuritaire actuellement vécue dans l'est de la RDC risque d'avoir un impact sur l'éducation, particulièrement celui lié à la déclaration d'une année blanche dans certaines sous-divisions. En plus des risques liés à la déclaration d'une année blanche, d'autres sont relatifs à la prise en charge des enseignants, particulièrement des nouvelles unités et les non-payés, mais aussi l'accès aux liquidités pour ceux qui bénéficient des salaires via les banques. Explication mappée de Linda.
Pour ce qui est des risques liés à la déclaration d'une année blanche dans certaines zones par exemple, il faut noter que selon les normes de l'UNESCO, une année scolaire dure 220 jours ouvrables au total. À défaut de totaliser les 220 jours, l'école doit organiser les cours sur au moins 180 jours et plus, faute de quoi l'année est déclarée blanche. Dans la province du Sud-Kivu, plusieurs zones connaissent encore une forte instabilité occasionnée par des affrontements occasionnels et ou récurrents entre les éléments qui se réclament au Wazalendo et les troupes du M23. À ceci s'ajoute le rumeur persistante sur la volonté des belligérants à poursuivre les affrontements pour récupérer des nouvelles zones ou reconquérir d'autres. C'est notamment dans les sous-divisions Walungu 1 à 2 où les portes des écoles sont toujours fermées. Dans certaines écoles dans la province éducationnelle Sud-Kivu 1, notamment à Bukavu et les territoires des Kabare, Idjwi et Kalehe, des gestionnaires ont réadapté les horaires en réduisant le nombre de jours prévus pour les congés afin de rattraper les retards accumulés à la suite des événements ayant conduit à la chute de la ville de Bukavu. Des experts dans les secteurs de l'éducation évoquent les responsabilités selon lesquelles une année blanche peut être déclarée dans certaines écoles et ou sous-divisions qui n'auront pas totalisé les minimums de 180 jours prévus par l'UNESCO, alors que dans d'autres, les élèves seront proclamés de manière régulière. Ces experts conseillent aux belligérants de prendre en compte cette question en protégeant les lieux éducatifs et les enfants conformément au droit international humanitaire afin de favoriser l'achèvement du calendrier scolaire. Aux gestionnaires d'école d'organiser des programmes spéciaux, notamment pour les élèves dans les classes terminales, afin de les préparer aux épreuves certificatives qui approchent, notamment l'examen d'État, examen national des fins d'études primaires et les tests nationaux de sélection et d'orientation professionnelle. Au sujet du paiement des enseignants qui ne sont pas pris en charge par l'État congolais, particulièrement ceux du primaire, c'est le chaos qui s'installe dans leur famille, expliquent certains d'entre eux contactés. Payés localement grâce aux frais de fonctionnement envoyés par Kinshasa dans chacune des écoles, ces enseignants devront encore attendre longtemps car ces frais ne sont plus envoyés et même s'ils les seraient, les banques sont toujours inaccessibles. D'autres estiment que la situation des crise, à l'instar de celle vécue actuellement, devrait être saisie pour tirer des leçons pour une bonne gestion des secteurs éducatifs qui, du reste, est apolitique.
D'un secteur à un autre, plusieurs hôpitaux de la province du Sud-Kivu, particulièrement ceux des territoires, font face à un manque criant d'intrants médicaux pour la prise en charge des malades. Depuis plus de deux mois maintenant, cette situation a été accentuée avec l'avancée des troupes de l'AFC M23 et la prise des différentes entités, notamment la ville de Bukavu, ainsi que les territoires de Kalehe, Kabare et Walungu. Explication Omer Mudekereza.
Des alertes et indignations parvenues à Radio Maendeleo font état de la rupture des stocks de médicaments et le non-approvisionnement régulier des structures qui se faisaient déjà dans le cadre du programme de la gratuité des soins, initié par le gouvernement central avec l'appui de certains partenaires à Shabunda, Mwenga, Walungu, Kabare, Kale ou encore à Idjwi. Des malades se plaignent du fait que les personnels soignants se limitent à faire des consultations avant de renvoyer les malades, même ceux concernés par la gratuité des soins, se débrouiller pour la suite de la prise en charge. Ceci intervient pendant que la situation sécuritaire de plus en plus précaire a conduit les organisations nationales et internationales à plier bagages alors qu'elles apportaient un soutien précieux au fonctionnement des structures de santé dans bien des territoires. en ce qui concerne la gratuité de la maternité par exemple. Certains hôpitaux ne sont plus à même d'offrir un service complet et gratuit aux femmes en maternité, à part un accouchement simple, expliquent certains responsables sous anonymat, alors que tout type d'accouchement était pris en charge gratuitement, au même titre que les maladies de l'enfant. Des 0 à 5 ans, les personnels soignants est obligé désormais de prescrire des ordonnances, puis aux concernés de se débrouiller car les hôpitaux sont en rupture. Sous anonymat, un responsable indique que la situation est chaotique pour les hôpitaux dont l'accès est coupé à la suite de la situation sécuritaire, ou encore l'enclavement suite au délabrement avancé des routes. Dans pareilles circonstances, poursuit-il, nous ne savons pas intervenir, malgré notre bonne volonté, et ce sont les malades, du reste pauvres, qui vont en payer le lourd tribut, à travers des morts en cascade qui peuvent être enregistrées. Il faut néanmoins noter que des sources sûres ont dit que la Banque mondiale a déjà renouvelé les contrats de financement portant sur la gratuité de la maternité et les soins médicaux en faveur des nouveau-nés. Malgré ces renouvellements, les contraintes sécuritaires caractérisées par la récurrence des affrontements sur plusieurs axes entre les troupes de l'AFC M23 et les éléments Wazalendo pourraient compromettre les interventions des terrains. Notez par ailleurs que cette situation intervient pendant que la province faisait déjà face à différentes épidémies comme la Mpox et la résurgence des cas de choléra dans certaines entités, d'où l'appel à plus de responsabilités pour ne pas ajouter à la crise déjà visible une autre qui pourrait s'aggraver en l'absence de toute intervention.
Toujours dans le secteur de la santé, les femmes enceintes en cette période de crise sont appelées à consulter régulièrement les médecins en vue de détecter toute anomalie du fœtus qui peut être occasionnée par le stress lié aux effets de la guerre. L'appel est du gynécologue Jean-Yves Balungu dans un entretien avec votre radio. Détail, Mapendolinda.
À en croire le docteur Jean-Yves Balungu, en temps de guerre, de crise et de situations difficiles, les femmes enceintes sont exposées aux multiples complications et à l'accouchement prématuré, d'où l'importance des rendez-vous réguliers avec les médecins pour le suivi de l'évolution de la grossesse. Il ajoute qu'en temps de crise, les femmes enceintes développent des stress qui influent sur la production des hormones à la base des complications des grossesses. Le gynécologue Jean-Yves Balungu explique.
Le stress, c'est un des éléments qui perturbe le fonctionnement de l'organisme dans son ensemble, essentiellement d'abord le cerveau, parce que c'est lui qui est affecté par toutes les informations qui arrivent par-ci, par-là. Et donc le cerveau peut être tellement perturbé qu'il va libérer sous stress certains médiateurs, et ce sont ces médiateurs qui vont être à la base des perturbations non seulement liées au fonctionnement et même au développement de l'organisme maternel, ce qui va affecter le développement et la croissance du fœtus. Et la femme doit essayer de s'adapter à cet environnement en créant autour d'elle d'abord la paix. Et cette paix sera plus renforcée par son entourage, par sa famille, qui va l'aider à gérer sur le plan émotionnel.
Hormis les stress liés à des événements traumatisants que vivent ces femmes et des rumeurs propagées ça et là en temps de guerre, les contacts avec les munitions qui ont un effet nocif peut altérer l'évolution du fœtus, ajoute le docteur Jean-Yves Balungu.
Oui, ces munitions peuvent affecter le fœtus, surtout lorsqu'il y a usage de produits chimiques qui sont toxiques. Et ces produits chimiques qui sont toxiques affectent d'abord la maman qui va les inhaler et qui, au sein de son organisme, va faire qu'il y ait un transfert vers le fœtus. Et c'est ce transfert qui peut être à la base. Comme nous le savons, toute intoxication peut être nuisible. Si ce n'est pas un arrêt de la grossesse, ça peut être également affecter le développement, la croissance de ces fœtus en intra-utérin. Et c'est souvent parfois des enfants qui sortent avec certaines anomalies ou certaines malformations.
Étant donné que l'environnement fœtal tient compte de l'environnement maternel, il recommande aux personnes qui vivent sous les mêmes toits avec les femmes enceintes d'éviter de les paniquer avec des rumeurs ou des fausses informations. Notre source appelle également les autorités à s'impliquer pour un rétablissement total de la sécurité dans les coins de la province du Sud-Kivu, afin de permettre aux femmes enceintes de fréquenter les structures sanitaires à temps et en toute quiétude. Signalons que depuis les événements qui ont abouti à la prise de certaines parties de la province du Sud-Kivu par l'AFC M23, dont Kalehe et ses environs, beaucoup de cas d'avortement et de fausses couches sont rapportés dans ces milieux, à printemps, des sources sur place.
Et les atrocités de la guerre et les conséquences de la criminalité dans la ville de Bukavu ont un impact considérable sur la santé mentale des habitants de la province. Plusieurs personnes peuvent développer des troubles mentaux et ils peuvent se manifester par l'isolement, l'anxiété, les troubles de sommeil, le maux de tête et la diarrhée. C'est ce qu'indique le psychologue Idriss Balinde qui œuvre au sein de l'organisation Action de soutien psychosocial aux personnes en détresse. Le psychologue Idriss Balinde conseille aux habitants de Bukavu d'accepter la situation actuelle, de faire preuve de résilience en voyant l'avenir avec optimisme et développer des liens plus étroits en famille. Le psychologue Idriss Balinde en parle.
Accepter d'exprimer les ressentis que chaque être humain a tendance à fuir. Le deuxième aspect, c'est lié plus au fait d'être en contact avec les gens. C'est très important et ça a un appui très significatif quand on garde contact avec les gens. Vous savez, les gens que nous côtoyons, ce sont ces gens-là qui nous réconfortent, qui remontent le moral. Alors, en cette situation, les gens doivent garder le contact avec leurs proches. Ils doivent passer du temps avec les membres de leur famille. Surtout, je vais évoquer aussi l'aspect lié aux enfants, parce que les enfants aussi vivent de mêmes situations. Alors, passer du temps avec eux, discuter avec eux, essayer de voir l'avenir d'une manière optimiste. Du genre, ne pas projeter la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les 5 prochaines années. Ça va faire en sorte que les personnes ne soient plus résilientes. Ils vont avoir du mal à développer ce mécanisme-là de coping, le mécanisme leur permettant à faire face à ces traumatismes.
Et avant de parler sport, 3 sites abritant différentes installations de la régie des eaux et qui desservent en eau plusieurs avenues de quartier Nyaloukemba et Dédère en commune d'Ibanda viennent d'être sécurisés. Il s'agit des concessions situées sur les avenues Hippodrome, Somanki et Albert Kayabou. Sur chacune de ces parcelles, des installations qui desservent plusieurs avenues étaient déjà presque vandalisées, notamment le château d'eau sur avenue Somanki et une bonne borne fontaine sur avenue Albert Kayabou. Au cours d'une descente effectuée sur place, le maire de Bukavu, Ladis Muganza, et une équipe de la régie des eaux ont fait un constat de ces cas d'expoliation qui s'opèrent dans une période particulière. Franck Saloumou, chef de division technique et représentant du directeur de la régie des eaux Sud-Kivu, remercie le maire pour la promptitude avec laquelle il a agi afin de décourager cette pratique. Franck Saloumou en parle.
Et les sentiments qui nous animent pour l'instant, ce sont des sentiments de très grande satisfaction. Nous remercions le maire de la ville de Bukavu ainsi que le commandant ville qui ont vite réagi à notre doléance parce qu'il y a 3 sites, les parcelles de régie des eaux sont en train d'être spoliées. Il y a le site de l'avenue Hippodrome où il y a un monsieur qui a construit une clôture entre la bordure de la chaussée et notre parcelle. C'était en prévision de la construction d'un bâtiment. Sur avenue Albert Kayabou, un monsieur a démoli la borne fontaine de la régie des eaux qui existe là depuis 1990. Il l'a démoli pour élargir sa parcelle de Somenki où il y a un réservoir de la régie des eaux qui alimente toute la colline de Somenki. Un monsieur a démoli notre clôture, il a élargi aussi sa parcelle et il a commencé à construire en dur. Nous remercions vivement les maires de la ville pour la promptitude avec laquelle il a réagi.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, les matchs allés de l'étape de quart de finale de la Ligue de champions de la CAF se jouent ce mardi 1er avril 2025. Le champion à titre Al Ahly d'Égypte affrontera Al Hilal du Soudan dans ce qui promet d'être une rencontre à enjeu élevé. Al Ahly, 12 fois vainqueur de la compétition, a terminé deuxième de son groupe, mais reste un adversaire coriace. Il a pour objectif de devenir le premier club à remporter 3 trophées consécutifs dans le tournoi. Al Hilal, entraîné par le Congolais Florent Ibenge, a terminé en tête de son groupe malgré qu'il dispute ses matchs à domicile en Mauritanie en raison du conflit en cours au Soudan. Sa solide défense sera cruciale contre les champions en titre. Le Pyramide FC, l'équipe égyptienne qui est impressionnée par ses prouesses offensives, affrontera le géant marocain AS FAR. Un autre duel alléchant opposera les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à l'Espérance sportive de Tunis de Tunisie. Les Sundowns, vainqueurs en 2016, espèrent franchir la barre de demi-finale, une performance qui n'ont plus réalisé depuis l'année de leur titre. Le dernier quart de finale verra le MC Alger d'Algérie,
qui n'a encaissé que 2 buts lors de la phase de groupe affrontée les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Tous les matchs de quart de finale se joueront en 2 manches, le match aller étant prévu ce 1er avril et les matchs retour une semaine plus tard, soit le 8 avril prochain.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
Par ici prend fin ce radio journal. Anissé Akonkwa a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expedi Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Maindeleo. Au revoir.